Mon titre, Théâtre féministe et sociocritique, quel dialogue possible? J'aurais peut-être dû, en fait, poser la question autrement. J'ai réfléchi à ça après coup. Au sens où c'est pas tant la question d'un théâtre féministe qui m'intéresse, mais bien la réflexion, une réflexion féministe sur le théâtre actuel des femmes au Québec, qui est, ceci dit, pas toujours féministe, mais qui, à tout le moins, tente d'aborder des enjeux qui, eux, le sont. Alors, c'est plutôt de se demander comment arrimer cette réflexion féministe au théâtre. Peut-être autrement que par une analyse socio-esthétique, autrement que par la pragmatique pure et dure, peut-être une analyse dramatique que plusieurs au Québec se refusent à utiliser, je pense, pour cause de désuétude. C'est là qu'intervient, me semble, et adéquatement, je crois, la sociocritique. Je peux tout de suite citer, en fait, en exemple, les travaux de Véronique Grondine et de Marianne Marquis-Gravel, quoique les travaux de cette dernière ne portent pas sur les féminismes, mais quand même sur le théâtre québécois. Et donc, je peux renverser peut-être ma question, la travailler autrement. Théâtre, féminisme et sociocritique, quelle discussion possible, plutôt? L'usage de la sociocritique m'est apparu comme le geste à préconiser pour justement activer une lecture féministe du texte de théâtre, pour creuser au fond des mots, des situations, des échanges de paroles et surtout des enjeux qui touchent les femmes, pour parvenir à une mise en lumière non pas seulement d'un imaginaire féministe, mais surtout pour révéler, par le prisme de l'écriture dramatique, la société et ses mécanismes qui invisibilisent et minorisent encore les femmes. Donc, dans le cadre de mes recherches doctorales, je m'intéresse à la question de la liberté de choix dans la nouvelle dramaturgie des femmes au Québec depuis 2015. Et je soulève cette question tout particulièrement à travers les enjeux du travail, du corps et de la militance, ou de la parole citoyenne, ça dépend des jours. Cette période est très récente et particulièrement féconde pour le théâtre des femmes. Il y a justement, en effet, une effervescence de paroles, de textes, de mise en scène aussi à caractère féministe actuellement, qui va de pair aussi avec les revendications des femmes artistes concernant leur présence et leur situation dans le milieu théâtral. Je pense entre autres au mouvement des femmes pour l'équité en théâtre. Donc, mon objectif aujourd'hui, dans un premier temps, est de passer brièvement en revue certaines définitions de la liberté de choix, ou en tout cas de la liberté plus généralement, vous présenter celles que je priorise dans le cadre de ma propre analyse dramatique féministe et sociocritique. Dans un second temps, je vais aussi m'attarder à l'enjeu du travail en contexte néolibéral à partir des thèses sur la rationalité néolibérale, comme la réfléchissent Pierre Dardot et Christian Laval, parce que ces réflexions d'ordre sociologique et philosophique me sont apparues très fécondes dans le cadre d'une analyse dramatique sociocritique. Et finalement, je vais regarder plus attentivement la question du travail, de l'épuisement et de l'aliénation sociale dans le texte dramatique « Niotemori » de Sarah Bertium, texte qui est à l'étude dans ma thèse. Globalement et en termes méthodologiques, mes analyses reposent sur une combinaison de sociocritique et de critique féministe d'inspiration fortement matérialiste, ainsi que sur la théorie de l'analyse dramatique de Patrice Pavis, une théorie qui emprunte principalement à la rhétorique et appliquée entre autres aux thèmes, aux actions et, bien sûr, au discours social. Donc, quand on parle de liberté, de quoi il est question, à partir de quelle base théorique, surtout dans un contexte féministe, comment je pose la question? Bon, parfois, je rencontre le mot liberté, il y a aussi question d'émancipation, d'empowerment, parfois aussi d'agentivité, de libération, donc un peu comment dépatouiller tout ça. Donc, qu'est-ce qui est le plus pertinent pour analyser justement les enjeux du travail, du corps et de la militance dans la dramaturgie des femmes? Isabelle Guérin, qui est une chercheuse, oui, dans le champ du développement international, nous donne d'abord quelques définitions intéressantes autour desquelles construire. Elle fait davantage référence aux termes « empowerment » et « émancipation », lesquels, selon elle, sont interchangeables. Par émancipation, elle entend ici tout processus de libération à l'égard des contraintes. Angela Davis, la grande militante afro-américaine pour les droits civiques aux États-Unis, disait à peu près la même chose dans sa petite anthologie de l'émancipation, à savoir que, je la cite, « la première condition de la liberté, c'est l'acte de résistance au grand jour, de résistance physique, de résistance par la force, c'est le refus d'accepter les définitions du maître ». Isabelle Guérin fait mention de deux courants de pensée autour de la question de l'émancipation, la vision néolibérale et la vision radicale. Donc, je vais commencer par approfondir la seconde vision, celle radicale, qui m'apparaît une vision transformatrice de la question, pour ensuite revenir à la première, la vision néolibérale, autour de laquelle s'est construit un discours critique très intéressant, principalement de la part de chercheuses féministes. Pour Guérin, une vision radicale de l'émancipation consiste en un processus d'acquisition de conscience critique, de pouvoir intérieur et de capacité d'action individuelle et collective promouvant le changement social. Dans le même ordre d'idée, je me permets de faire appel au concept de libération et de liberté, comme les pense Diane Lamoureux, politicologue féministe. Libération ici étant pour elle plus ou moins associée avec l'idée de rupture et de radicalisme, ce qui signifie également pour elle échapper à l'oppression, définition qui se rapproche de ce que Angela Davis soutient. D'un autre côté, toujours pour dire l'amoureux, la liberté représente pour les femmes et les personnes minorisées, je la cite, l'accès au statut de coactrice du monde. Enfin, si cette vision radicale de l'émancipation semble difficile à acquérir, à atteindre, c'est peut-être, comme le mentionne l'anthropologue et féministe matérialiste Nicole-Claude Mathieu, je la cite, « une des raisons de la limitation de la conscience propre chez les femmes est que leurs actes sont orientés en fonction des autrui dont elles dépendent et qu'elles servent matériellement ». Donc, ce qui m'amène à vous parler de la seconde vision de l'émancipation, c'est le néolibéral, qui confirme ce que Nicole-Claude Mathieu soulève, à savoir qu'une vision néolibérale de l'émancipation fait croire aux femmes qu'elles sont maintenant libres de faire ce qu'elles veulent, alors que finalement, ce processus néolibéral mène à une resubordination des femmes. Chez Guérin, cette vision néolibérale se résume assez sommairement à l'exercice des capacités individuelles. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour les femmes, cet exercice des capacités individuelles? Pour arriver à réfléchir cette question de manière plus concrète, je vais légèrement faire bifurquer ma question vers l'enjeu du travail des femmes en contexte néolibéral. Nancy Fraser, de qui je m'inspire beaucoup dans ma thèse, qui est une théoricienne critique et féministe, a démontré que ce qui avait l'air d'une libération des femmes dans le champ du travail dans les années 70 a été rapidement détourné puis absorbé par l'émergence du néolibéralisme. Et donc, l'exercice des fameuses capacités individuelles est devenu rapidement le geste de consommer, de faire de l'argent grâce à une présence accrue, évidemment, sur le marché du travail. Dans son dernier opus, Fraser, en collaboration avec Cindy Arouza et Titi Bhattacharya, « Féminisme pour les 99 %, un manifeste », Fraser mentionne que cette accointance entre le féminisme et le néolibéralisme a donné du souffle à ce qu'elle nomme le féminisme libéral. Et si j'en fais mention ici, c'est bien parce que la liberté de choix qu'on attribue principalement aujourd'hui au pouvoir décisionnel des femmes est basée sur ce féminisme libéral qui occupe énormément de place dans le discours et l'espace social. Donc, permettez-moi de citer Fraser assez longuement, ce qui va nous permettre de mieux saisir où en est la question de la liberté dans sa vision néolibérale. Alors, Fraser dit « Les médias traditionnels continuent à assimiler le féminisme dans son ensemble au féminisme libéral. Mais loin de fournir des solutions, le féminisme libéral fait partie du problème. » Centré sur les pays occidentaux et les catégories socio-professionnelles supérieures, il encourage les femmes à s'imposer et à briser le plafond de verre. S'employant à permettre à une poignée de femmes privilégiées de gravir les échelons au sein de l'entreprise et les grades au sein de l'armée, il propose une vision de l'égalité indexée sur les lois du marché qui coïncide parfaitement avec la manière dont les entreprises épousent actuellement la cause de la diversité. Alors, bien qu'il condamne les discriminations et prône la liberté de choix, le féminisme libéral refuse catégoriquement de reconnaître et de lutter contre les contraintes socio-économiques qui empêchent pourtant la grande majorité des femmes d'accéder à la liberté et à l'autonomie. Son véritable objectif n'est pas l'égalité, mais la méritocratie. Fin de la longue citation. Ce qui m'amène à aborder la question plus large du néolibéralisme et à préciser les théories auxquelles je fais référence dans le cadre de mes travaux. Pierre Dardot et Christian Laval, dans leur ouvrage « La nouvelle raison du monde », qui a été publié en 2009, nous amènent à penser le néolibéralisme d'un angle sociologique et philosophique en considérant, je les cite, que le néolibéralisme définit une certaine norme de vie dans les sociétés occidentales. La singularité des travaux de Dardot et Laval repose justement sur leur approche qui consiste à analyser la conception et les impacts sociologiques du néolibéralisme sur la construction des subjectivités et sur les vies humaines. Selon eux, il n'est plus possible dans le contexte actuel de penser uniquement le capitalisme en termes de marché, de dérégulation et de prioriser ce qu'ils nomment l'ontologie naturelle que serait le laisser-aller capitaliste. Pour eux, je les cite, « Le néolibéralisme est la raison du capitalisme contemporain, d'un capitalisme débarrassé de ses références archaïsantes et pleinement assumé comme construction historique et comme norme générale de la vie. » Les chercheurs évoquent l'usage nécessaire du concept de liberté, évidemment, dans le cadre de la gouvernementalité néolibérale, puisque, selon eux, gouverner par la liberté, c'est jouer activement sur l'espace de liberté laissé aux individus pour qu'ils en viennent à se conformer d'eux-mêmes. » Niot et Maurice de Sarah Bertion nous offre deux exemples de personnages qui soit se conforment de plein gré à cette logique néolibérale, le créatif, ou encore contre leur gré, le personnage de Maud. Je vais en parler un petit peu plus en détail un peu plus tard. La singularité de la réflexion de Dardot et Laval repose en fait sur le fait qu'ils examinent les mécanismes d'assujettissement de la rationalité néolibérale pour tenter d'en comprendre les effets sur les modes de vie et de pensée des individus. Les chercheurs proposent de réfléchir au mode de vie néolibéral par le prisme de ce qu'ils nomment le sujet néolibéral ou néo-sujet. Donc, devenu pour eux logique générale des rapports humains soumis à la règle du profit maximal, la rationalité néolibérale s'appuie sur un dispositif d'efficacité, c'est-à-dire un ensemble de structures qui touchent et influencent la vie humaine, donc l'éducation, le contrôle des corps, les modes d'organisation du travail et des loisirs, etc. Dans ce contexte, le sujet néolibéral développe un mode de gestion de soi de l'ordre de ce que Dardot et Laval nomment un gouvernement de soi entrepreneurial, dont la principale activité consiste à être entièrement dédié à son travail. On verra que c'est ce qui se produit dans Niyot et Mori. Pour Dardot et Laval, cette totale immersion du sujet dans cette sphère de sa vie ne peut se faire sans qu'une rationalisation du désir, comme ils le disent, se pense et s'intériorise. Donc, ce processus trouve son plein essor autour de la triade suivante. D'abord, l'exposition obscène de la jouissance, l'injonction entrepreneuriale de la performance et enfin, la réticulation de la surveillance. Donc, les deux premiers éléments font partie pour Dardot et Laval de ce qu'ils nomment un dispositif de performance-jouissance, autour duquel s'articule la nécessité d'être performant au travail et celle de profiter pleinement des bénéfices qu'engendre cette ardeur à l'ouvrage. C'est la surveillance constante de soi, enfin, qui joint ces deux faces de la même médaille, qui fait en sorte que le sujet néolibéral se trouve gouverné dans le dispositif performance-jouissance. Donc, cette gouvernementalité de soi rigide fait en sorte que les sujets doivent désormais être capables de s'adapter aux risques associés à la pression et à la peur sociale, à l'insécurité en matière d'emploi et de salaire, et enfin s'adapter à la concurrence et à la compétition toujours plus féroce. C'est donc à un mode de vie complètement intériorisé que nous renvoie la rationalité néolibérale selon Dardot et Laval, qu'une manière de gouverner et surtout d'être gouverné, de penser et de vivre dont les rouages sont multiples et tentaculaires. On sort de la théorie, on plonge dans le théâtre. Dans l'ensemble des œuvres traitées dans le cadre de mon chapitre de thèse qui est dédié en fait à la question des représentations et des discours sur le travail, Niyot et Mori de Sarah Bertion est sans doute la pièce en fait qui touche au plus près du sujet du capitalisme sauvage et de sa rationalité néolibérale justement. La pièce est publiée aux éditions de Tamer en 2018 et est présentée la même année au Centre du théâtre d'aujourd'hui dans une mise en scène de l'autrice et de Sébastien David. Niyot et Mori raconte en trois tableaux la lente descente aux enfers de Maud, une travailleuse pigiste qui n'arrive pas à terminer la rédaction d'un article. Ça sonne des cloches peut-être. Après avoir interviewé un jeune travailleur en vogue, le créatif, au sujet des métiers d'avenir, elle s'enferme chez elle pour rédiger son dossier dans l'espoir de le terminer avant de partir en voyage avec son amoureuse. Mais l'angoisse, les délais serrés et la procrastination l'amènent dans un univers parallèle à la rencontre de nombreux personnages prisonniers eux aussi d'une spirale asphyxiante de la performance néolibérale. Et donc, moi, c'est à travers une déconstruction de l'espace théâtral, dans la multiplication des lieux et dans leur collision aussi, puis par le basculement vers le réalisme magique que Bertion travaille le sujet du néolibéralisme et l'état d'aliénation dans lequel est plongé particulièrement le personnage de Maud. En effet, le réalisme magique, genre qui, selon Walsh Matthews, introduit à la fois des éléments réalistes et surnaturels, sert ici en fait un double dessein. D'abord, il permet le renversement de la réalité et des espaces pour créer un effet de vertige et d'envahissement chez Maud. Et ensuite, une compression du temps et de l'espace agit inversement sur elle, c'est-à-dire qu'elle l'isole dans une narration qui lui refuse une prise concrète sur le présent de l'action. Avant toutefois de me tourner vers les effets du réalisme magique, qui sont surtout repérables à partir de la deuxième partie de la pièce, je vais analyser la trajectoire de Maud dans la première partie. Donc, il s'agit ici de montrer comment le discours sur l'entreprise se structure à partir des lieux physiques de la compagnie où se déroule la scène et comment ceci agit sur la protagoniste en la transformant en sujet de l'implication totale de soi, pour citer à nouveau Dardot et Laval. La chercheuse Muriel Plana soutient que, je la cite, « l'avènement d'un nouveau théâtre politique suppose de renouer avec le sujet agissant, soit avec le personnage d'une part, l'action et l'interaction d'autre part, soit avec ce qu'on appelle le dramatique. » Le premier tableau de Niyotemori prend la forme d'une entrevue que conduit Maude avec le créatif, un jeune publicitaire dans une agence décrite comme un espace de liberté créatrice. La structure des questions-réponses nous indique d'abord que les dialogues forment le socle de cet échange et que tout en nourrissant le sujet d'article de Maude sur les métiers d'avenir, ces dialogues nous renseignent également sur la mentalité propre à la dite entreprise créative. Donc, c'est dans l'acte même de cette interaction, pour reprendre les mots de Muriel Plana, dans l'élaboration des paroles de chacun des personnages, que se construit le discours sur l'entreprise, de même que les lieux physiques qui la constituent. Plus encore, ces échanges dialogués produisent des effets, comme l'a théorisé Anne Hubertsfeld, des effets particulièrement repérables chez le personnage de Maude, à travers ses réactions, ses réponses et sur son comportement. Donc, pour le dire autrement, l'emploi du dialogue théâtral dans cette première partie de la pièce traduit une mise en texte des rapports sociaux inégaux et les échanges entre les deux personnages représentent les dynamiques de pouvoir à l'œuvre dans le système néolibéral. Deux aspects de la question du travail s'esquissent dans la discussion entre Maude et le créatif, une discussion dont la situation d'énonciation prend racine dans une construction dialoguée assez rythmée. Donc, tout d'abord, il est question de spectacularisation et d'euphémisation du travail, tels que les théorisent Kingsey et Simonet. Et deuxièmement, l'inscription de ces aspects dans le dispositif plus général de la performance-jouissance, tels que mentionné précédemment chez Dardot et Laval. Donc, la façon dont le créatif magnifie tout ce qui a trait au lieu physique de l'agence, aux privilèges accordés par son employeur ou encore aux messages publicitaires qui matérialisent les valeurs prônées par la compagnie, participe de ce que Kingsey et Simonet nomment la mise en visibilité spectaculaire du travail. Donc, au sujet de cette ancienne usine de textile transformée en agence au style industriel, le créatif dira, et c'est là que je sors mes talents de comédienne, l'idée, c'est que le monde ait du fun à venir travailler. Je veux dire, tout ce que je t'ai montré, là, les hamacs, les standing desks, le mur d'escalade, tout ça contribue à créer un environnement de travail où on se sent bien, où on est stimulé, où on a du fun. Le but, c'est qu'on se sente tellement chez nous qu'on n'a jamais envie de quitter le bureau. Il y en a des savoureuses tout au long de la présentation. Alors, le créatif vante ce qu'il appelle également l'incubateur, une branche de l'agence qui finance, produit puis diffuse tes projets persos, dont l'existence même, on le comprend, contribue à faire en sorte que les employés demeurent sur leur lieu de travail non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour leur propre plaisir personnel. Et enfin, dans le discours qu'il tient pour décrire son emploi du temps et ses 1000 projets, le créateur glorifie les horaires chargés, beaucoup, beaucoup de meetings, dira-t-il, et valorise la liberté de création partout, en tout temps. The limit is not in the sky, it's in the mind. Ce personnage, dont la seule apparition est au début de la pièce, forge une représentation théâtrale de ce que Dardot et Laval nomment le sujet néolibéral, bien sûr. L'autrice construit en effet le créatif comme un sujet actif qui doit participer totalement, s'engager pleinement et se livrer tout entier dans son activité professionnelle. À nouveau, Dardot et Laval. Par sa seule présence et le discours qu'il promeut, il valorise une idéologie du travail extrême à laquelle Maude va essayer de se conformer tout au long de la pièce. Le créatif met en place le fameux dispositif de performance-jouissance par lequel il fait l'exposition obscène de la jouissance en vantant tous les privilèges auxquels il a accès par son travail, particulièrement le privilège de la créativité. Il cristallise par sa présence et son discours l'injonction entrepreneuriale de la performance. Et enfin, de manière plus subtile et sournoise, il veille à la réticulation de la surveillance générale, principalement celle que Maude va s'infliger aussi graduellement à partir de sa rencontre avec ce personnage. Dans cet entretien entre Maude et le créatif, on constate que la spectacularisation du travail et la ferveur avec laquelle ce sujet néolibéral y plonge masquent des inégalités frappantes entre les hommes et les femmes au sein de cette entreprise, et c'est là, évidemment, qu'une analyse féministe est pertinente. C'est par les réactions et les réponses de Maude tout au long de l'entrevue, dans ce que Jean-Pierre Ringuert nomme un théâtre de la conversation, banal en apparence, mais malgré tout traversé par toute une série de sous-entendus, qu'apparaît l'aspect critique et politique du théâtre de Bertillon, ou en tout cas de cette pièce. Les aspects critiques montrent l'effet inverse de cette mise en visibilité spectaculaire du travail, soit l'invisibilisation des femmes par l'euphémisation de leur contribution dans le contexte du travail. Je renvoie ici à nouveau à Kingsey et Simonet. Maude devient un personnage catalyseur des enjeux qui relient les femmes au travail en entreprise et se retrouve au centre d'une situation où son propre travail est diminué de manière subtile et insidieuse. À titre d'exemple, Le créatif lui demande vers la fin de l'entrevue si elle est journaliste et donc habituée à travailler avec la contrainte. La réponse de Maude et l'échange qui s'ensuit révèlent bien justement les disparités dans le traitement offert aux femmes. Donc, l'échange débute avec Maude et je vais jouer deux personnages. Maude et le créatif. Alors, Maude, ben, je suis à mon compte, fait que je fais un peu de tout, là. Je suis comme autrice, journaliste, chroniqueuse, recherchiste, rédactrice, blogueuse, chargée de projet, gestionnaire de communauté, ish. Le créatif, pigiste, dans le fond. C'est ça. Fait que t'as pas tant de contraintes que ça. Ben, ben pas d'horaire, pas de boss, la belle vie. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quoi le nom déjà du... le nom de ton... Le nom du dossier? Ouais. Curriculum des possibles. Regards croisés sur les métiers d'avenir. C'est un beau titre. Fin de l'échange. Les réponses offertes par le créatif dans ce précédent échange minimisent complètement le statut de travailleuse de Maude, la réduction de toutes ses tâches à simple pigiste, l'atténuation de ses conditions de travail précaires en créant l'effet inverse, c'est-à-dire en valorisant la liberté qu'elle possède par l'absence de patron et d'horaire rigide, ou encore le dénigrement à peine masqué de son dossier par la seule mention d'un beau titre. Les réponses toujours brèves et sous forme interrogative, de Maude, donnent l'effet d'une incapacité à communiquer adéquatement, d'une paralysie presque chez elle et d'un désintérêt flagrant de la part du créateur. Créatif. Ah, j'ai marqué créateur. Quand même, c'est intéressant. les effets de l'euphémisation nous donnent à voir un dispositif de la performance jouissance qui est bien sûr sexiste et classiste. Cette scène d'entrevue est le point de départ où Maude prend conscience des conditions d'aliénation formées par l'idéologie néolibérale en contexte d'entreprise. Les grandes marques d'oralité, les échanges dialogués soulignent la concrétude de la situation d'énonciation et déterminent le lieu physique et idéologique à partir duquel les relations basculent ensuite dans le réalisme magique. La majeure partie du premier tableau se déroule donc dans une entreprise de publicité et se construit grâce à la discussion entre Maude et le créatif, donc suivant une logique assez linéaire du récit. De l'échange, en tout cas. Dès la deuxième partie de la pièce, par contre, l'éclatement puis la collision des différents lieux s'opère par une fragmentation de la parole, une parole qui quitte tranquillement les zones du dialogue pour se reclure dans de courts monologues. Et c'est là que le réalisme magique met au jour le revers de la performance néolibérale, c'est-à-dire l'épuisement et la solitude. Pour Jean-Pierre Ringart, c'est justement, je le cite, « par le détour spatio-temporel que nous pouvons réfléchir sur notre époque et engager la compréhension idéologique du récit ». Donc, dans le cas de Néo-Témorie, les divers espaces qui s'imbriquent à travers les paroles croisées des personnages ont pour effet de cadrer l'isolement de ces derniers dans un discours aliénant produit principalement par l'anxiété de performance. C'est à la fin de son entrevue avec le créatif que Maude rencontre brièvement le personnage de la directrice conseil de l'agence de publicité par l'entremise d'une conversation téléphonique. Et c'est par ce personnage de la directrice conseil que nous entrons graduellement dans la dimension réaliste magique de la pièce. La conversation est brève puisque la directrice conseil se retrouve coincée dans sa voiture, dans un tunnel, ou dans le tunnel, donc extrait. La directrice conseil. Tout devient noir. Le tunnel, les autres chars, mon tableau de bord, tout s'éteint. Comme si quelqu'un avait coupé le courant. Qu'est-ce que c'est ça? J'éteins le moteur, je sors de mon char. Elle fait quelques pas. Les autres chars ont disparu. Il n'y a plus personne. Je suis toute seule dans le tunnel. J'avance à tâtons dans le noir. En temps normal, je ne pourrais pas m'empêcher d'imaginer le pire. Mais là, étrangement, j'ai pas peur. Fin de l'extrait. Donc, la métaphore de l'attente dans le tunnel traduit, évidemment, tous les moments d'attente que la directrice conseil s'est vue imposer dans sa vie, dans son travail. Elle en nomme plusieurs, l'attente d'un enfant, d'un conjoint. Donc, le tunnel, le lieu sombre et étouffant, indique aussi son état mental, son exaspération et son épuisement face à l'ambiance compétitive des milieux d'entreprise. En mentionnant ici que la directrice conseil n'a étrangement pas peur, l'autrice nous fait accepter sans hésitation la convention du réalisme magique où, subitement, la scène est transformée en tunnel et où cette femme y marche seule. À cet égard, Walsh Matthews mentionne, je la cite, que les hallucinations, les rêves prémonitoires et les visions sont des éléments réalistes magiques seulement lorsqu'ils sont présentés comme étant objectivement réels. Donc, la disparition des autres voitures est-elle attribuable à une vision? Nous n'en sommes pas certains, mais nous acceptons cette ambiguïté justement parce que le calme éprouvé par la directrice conseil nous la rend objectivement réelle. Donc, au final, l'apparition d'effets réalistes magiques dans la forme caractérise l'épuisement et la solitude liées aux conditions de travail, entre autres. À nouveau, Walsh Matthews observe « Le surnaturel subvertit les normes du réel et par le biais de cette subversion, le texte met en lumière une critique de son contexte social. » Donc, la situation de la directrice conseil agit comme un précurseur de ce qui va pas tarder à se développer plus en détail, soit l'éclatement des divers espaces dramatiques et l'isolement complet des personnages. La deuxième moitié de la pièce, intitulée « Hands on a hard body », s'ouvre sur une scène entre Maude et sa blonde, une enseignante au primaire fraîchement en vacances depuis quelques heures. Donc, on comprend rapidement que les deux femmes devaient partir en voyage très bientôt, mais comme Maude ne parvient pas tout à fait à terminer son dossier dans les temps prescrits, leur plan semble légèrement compromis, ce que Maude tente tant bien que mal de dissimuler à son amoureuse. L'apparition de Benny K. Anderson, un Américain qui participe au concours Hands on a Hard Body d'un concessionnaire Toyota à Austin, au Texas, fait en sorte que Maude est entraînée dans une spirale aliénante. J'aurais pu trouver un autre qualificatif, mais bon, c'est ce qui est écrit. Benny K. Anderson endosse en effet plusieurs rôles discursifs dans la seconde partie de la pièce. Sa présence joint, selon la théorie de l'analyse dramatique de Pavis, les niveaux discursifs et idéologiques du texte, de par la mise en texte de sa situation en tant que travailleur précaire au niveau discursif et la réflexion plus large concernant le travail, le néolibéralisme et l'aliénation sociale que sa présence suscite, donc le niveau idéologique. Donc encore une fois, c'est grâce au réalisme magique et à la mobilité des différents lieux que se produit cette rencontre entre les structures discursives et idéologiques. Les apparitions de Benny K. Anderson sont construites sous la forme de courts monologues dans lesquels il décrit en détail le déroulement du concours d'endurance auquel il participe, concours qui consiste, je cite le texte, à avoir une main ou une autre partie du corps en contact avec une voiture le plus longtemps possible. Et notre Benny, au moment où nous apparaît dans l'histoire, il a la bouche collée depuis 65 heures sur l'aileron arrière d'une Toyota Yaris. La même voiture que Maude, il faut le dire. Donc, en entrecoupant les paroles de Maude, qui tente d'accomplir de multiples tâches pour avancer dans l'écriture de son texte, au monologue du travailleur américain, donc Bertium déploie une métaphore entre les efforts de Benny K. Anderson et ceux de Maude. Évidemment, on le comprend à la lecture. Elle dessine ainsi un éventail des formes de travail, éventail qui, par sa mise en fiction, révèle ce que Yannick Noiseux appellerait une fragmentation et une segmentation des marchés du travail. Donc, au fil des apparitions du jeune homme, de Benny K. Anderson, il se creuse un écart avec la réalité. Le réalisme magique s'impose de plus en plus et distance chacun des personnages dans une zone de solitude et d'épuisement. Il y a une gradation dans l'intensité du discours de Benny K. Anderson. Il va expliquer d'abord en quoi consiste le concours, puis énumère ses précédents emplois. Donc, ce segment est entrecoupé d'une conversation téléphonique où Maude discute avec ce qu'on suppose être son employeur, une conversation qui est teintée de stress et de confusion. Donc, c'est par effet d'accumulation et de mise en parallèle que se précise le niveau discursif de la scène. Les multiples emplois précaires occupés par Benny K. Anderson caractérisent une extrémité du spectre, alors qu'il dit avoir déjà vendu du poulet frit, des rasoirs, des cellulaires, déplacé des meubles, des électroménagers, des personnes âgées, des postes de chambre, lavé de la vaisselle, des vitres, des personnes âgées. Et que Maude, pendant ce temps-là, de l'autre côté, s'acharne sur les nombreuses versions de son texte à rendre et les autres projets qui attendent qu'elle s'y attarde. C'est beaucoup trop compliqué de vous rendre ça à l'oral, mais c'est très intéressant visuellement dans le texte. Sarah Bertium fait intervenir à quelques reprises une didascalie qui fait mention de bruit de machine assourdissant, donc qui divise en fait comme les deux côtés, en fait des deux monologues, ce qui crée simultanément en fait une scission et une convergence entre les monologues des deux travailleurs. Donc, la rencontre produite entre deux types de travail que Noiseux pourrait qualifier de flexibles, les multiples emplois précaires de Benny K. Anderson et les tâches liées au travail de pigiste de Maude, engendre une réflexion sur les diverses mises en texte du travail, sur l'accumulation des tâches, leur diversification et sur le poids social imposé aux individus selon leur positionnement aussi dans le spectre social. La mise en parallèle des paroles des deux protagonistes produit une réflexion d'ordre idéologique, comme l'entend Patrice Pavis. Donc, celle-ci devient possible puisque l'usage du réalisme magique, pour citer à nouveau Walsh Matthews, est chargé d'une intention d'exposer le revers des vérités établies à l'aide de l'incursion d'événements surnaturels. Donc, c'est dans l'alternance de ces courts monologues que l'image de l'aliénation et de l'isolement se construit par effet réaliste magique, ce qui rend possible une réflexion évidemment plus politique, plus largement. Donc, l'impact métaphorique ou symbolique de cette relation avec Benny K. Anderson se révèle efficace par le retour au présent de la situation dramatique lors d'un court échange dialogué entre Maud et sa blonde. Elle est en train de s'impatienter. Ils sont supposés de partir en vacances. Donc, c'est au moment où le travailleur, Benny K. Anderson, nous relate la perte de conscience d'un participant au concours que le présent de la situation refait surface. Extrait. Trois personnages. Benny. En entendant sa tête frapper le sol, j'ai ressenti la même chose que quand j'ai tué un chevreuil. Une grande puissance. Comme s'il m'avait transféré sa force. Comme si c'était moi qui l'avais tué. La blonde de Maud? Calice. Maud? Mais ça veut pas dire qu'on peut pas partir, là. Ça change absolument rien à nos plans. On part pareil, comme on avait dit. La seule affaire qui change, c'est qu'il va falloir que je prenne du temps pour travailler. Un peu. Fin de l'extrait. Donc, la métaphore du choc ici se répercute autrement chez la blonde de Maud, bien évidemment. Ce qui apparaît comme une sorte de délivrance chez Benny K. Anderson est en fait, dans le présent de la situation dramatique, le coup final, comme on le comprendra plus tard, à la relation entre Maud et sa blonde. L'usage brutal du calice brise la dimension réaliste magique pendant quelques instants et nous ramène sur le terrain de l'échange dialogué. Dialoguer, ce serait décider, nous dit Jean-Pierre Sarrazac. Et en effet, le dernier dialogue à proprement parler d'Agnotemori, celui entre Maud et sa blonde, nous ressemble sur l'agir de la parole, l'espace de quelques instants, instants pendant lesquels on fait le constat de la spirale sociale dans laquelle Maud s'est engouffrée. Extrait. Deux personnages, Maud et sa blonde. Maud. En 30 heures, si je suis concentrée, là, c'est sûr que je peux clencher ça. La blonde de Maud. On part en vacances une semaine, puis toi, là-dessus, il faut que tu travailles 30 heures. Regarde, je sais que c'est pas l'idéal, mais c'est pas l'idéal. C'est de la marde. C'est juste de la marde comme plan. Étais-tu vraiment obligée de le prendre? Mais c'est la première fois qu'il me donne un dossier complet. Je sais bien, mais je pense que tu réalises pas, babe. C'est pas une petite affaire, là, c'est gros. Même si c'est payant, là, ça vaut-tu vraiment la peine? C'est pas une question d'argent. C'est une question de quoi, d'abord? De visibilité? La blonde de Maud roule des yeux, dépassée. Quoi? Tu vas scraper nos vacances pour une question de visibilité. Fin de l'extrait. Donc, cet argumentaire entre Maud et sa blonde démontre bien sûr toute l'absurdité, voire même l'aberration, d'abord de la situation dans laquelle elle se retrouve, mais surtout du régime de pensée qui produit cette situation. Ce n'est plus même la question économique qui guide Maud, mais bien cette gouvernementalité par la liberté dont faisait mention Dardot et Laval. Au point où Maud ne devient que son travail, elle se conforme entièrement à cette logique. Trois espaces apparaissent ensuite distinctement à la suite de cet échange. Benny K. Anderson et Maud, mis en parallèle, sont rejoints dans un troisième lieu par la blonde de Maud, allongée sur un tapis de yoga, essayant de passer le temps et sa déception, bien sûr. Que les trois personnages se retrouvent dans leur espace, isolés de chacun, chacune, exacerbe le sentiment de solitude et distance les possibilités de réunion et de mobilisation. L'ombre de la procrastination vient se mêler à l'angoisse de ne pas réussir et à la peur, vécue par toutes, de sombrer dans le vide. Ce vide social se traduit par la convergence entre le jeune Américain et Maud, c'est-à-dire que cette dernière finit par être complètement absorbée par son écran d'ordinateur, à observer ce même Benny K. Anderson, la bouche toujours collée sur sa voiture. C'est là le drame de la vie, tel que le pense Jean-Pierre Sarrazac, c'est-à-dire que, je le cite, « le présent de l'action et la présence des personnages se trouvent mis en péril ». Il n'y a plus ce que Sarrazac appelle « d'événement », alors que la blonde de Maud se met à nommer les postures de yoga dans lesquelles elle essaie de se détendre et de passer sa frustration. Il n'y en a plus non plus pour Maud, suspendue devant ce qu'elle nomme « de la cochonnerie », ce qu'elle regarde à l'écran, incapable de retrouver l'inspiration pour terminer son article. Chaque personnage, isolé dans son lieu, cintré dans l'angoisse du vide, est écarté des autres jusqu'à disparaître complètement. Finalement, dans le dernier tiers de Agnotemori, il se produit littéralement ce que David Harvey appelle une compression du temps et de l'espace, a time-space compression, c'est-à-dire, je traduis librement ici, que le monde nous apparaît tout à coup beaucoup plus étroit et l'horizon temporel qui nous permet de réfléchir aux actions sociales se voit passablement réduit. Harvey soutenait cette idée pour faire comprendre les effets du néolibéralisme sur les réalités sociales et politiques des individus. Je me permets de le reprendre dans le cadre d'une analyse dramatique. J'utilise la compression du temps et de l'espace comme une modalité esthétique du réalisme magique qui, par l'articulation du sujet et de la forme, nous permet de saisir comment l'aliénation sociale est mise en texte dans Niyotemori. Contrairement au détour spatio-temporel de Ringert, mentionné précédemment, qui me permettait de traduire l'éclatement et l'enchevêtrement des espaces, ici, la compression du temps et de l'espace s'opère en un seul endroit, c'est-à-dire dans la voiture de Maud ou tout près, dans le stationnement souterrain où elle se trouve. Et c'est une Toyota Yaris, évidemment. C'est là que Maud fait la rencontre de Hideaki Komatsu, un caresseur de voitures sur la chaîne de montage de l'usine Motomachi de Toyota City au Japon, et de Priya Patel, une ouvrière dans une usine de confection de sous-vêtements à New Delhi, en Inde. Tous ces trois personnages se rencontrent dans la voiture de Maud, à Montréal, on suppose. Donc, malgré l'étroitesse du lieu, ironiquement, les personnages n'arrivent jamais à établir un réel contact. La narration les repousse constamment dans des espaces clos où l'action, racontée à distance plutôt que vécue dans le présent du dialogue, joue sur la perte de contrôle des différents personnages et évidemment particulièrement sur Maud. Cette compression temps-espace parle des différents liens que les personnages entretiennent avec leur propre travail. Donc, la convergence vers la voiture, symbole de réussite occidentale par excellence, n'est pas anodin. Maud, à ce moment de la pièce, est complètement épuisée. Alors qu'elle doit prendre sa voiture pour aller faire une dernière entrevue dans le cadre de son dossier, il y a Priya Patel qui, elle aussi, épuisée dans l'usine de textile où elle fabrique des soutiens-gorge, se trompe de porte en quittant son lieu de travail et se retrouve dans le stationnement chez Maud. Elle constate que cette dernière porte le fameux soutien-gorge qu'elle-même s'éreinte à fabriquer pour un salaire de misère. Et donc, dans un éclat de colère, elle pousse Maud, qui se retrouve alors enfermée dans le coffre de sa voiture. Donc, à partir de ce moment, le réalisme magique s'empare de la voiture. Littéralement, il la fait voyager jusqu'à l'usine Toyota où travaille Komatsu Hideaki. Donc, ce dernier, enfin, sur sa chaîne de montage, fait la rencontre de Maud alors qu'il cherche à détecter des imperfections sur les voitures. Donc, il va en devenir tellement obsédé qu'il va finir par s'introduire dans le coffre d'une des voitures sur sa chaîne de montage pour essayer de retourner dans le stationnement où Maud a été laissée par Priya Patel. La compression temps-espace se reflète justement dans un imaginaire de la chaîne de montage, de l'usine également, où même Maud finit par être entraînée à travers ses rêves. Ces éléments nous offrent une réflexion sur les classes sociales, sur la marchandisation de la force de travail, la question de la sous-traitance et les effets du ruissellement associés au capitalisme contemporain. Émerge également un questionnement sur le colonialisme et l'impérialisme, sur les rapports de domination nord-sud et sur l'exacerbation des inégalités et la hiérarchisation entre les femmes, malheureusement. Dans la forme, on assiste à une sorte de solidification de la narration, c'est-à-dire que bien souvent, un des trois personnages raconte ce qui se passe devant ses yeux entre les deux autres personnages sans pourtant prendre part à l'action. Priya Patel interrompt souvent ce que Komatsu souhaite qu'il se produise. La narration nous expose à une suite d'actions à poser pour que le déroulement de l'histoire concorde avec ce que la rationalité néolibérale attend de chacun des personnages. Donc, cette alternance de la narration nous montre des personnages en quête de contrôle, qui tentent chacune de prendre les rênes du récit pour tenter non pas uniquement de transformer leur propre situation, mais également pour structurer autrement le déroulement de la grande histoire du capitalisme. Finalement, tout le monde parvient à s'échapper de la situation dramatique et de la situation sociale grâce à l'univers réaliste magique. Sauf, malheureusement, Maud. Et donc, que doit-on déduire de son inaction? Elle nous laisse sur ses paroles. Peut-être que la liberté, c'est d'être un échec, être complètement impuissante puis improductive, pas faire d'efforts, pas choisir, arrêter de choisir. C'est tellement épuisant choisir, asti qu'on choisit des affaires dans la vie. Si on est malheureux, c'est toujours de notre faute, c'est parce qu'on n'a pas fait les bons choix. Peut-être que la liberté, c'est de plus en avoir de crise de choix, d'être juste effoiré dans un sous-sol sans aucune espèce de possibilité, juste être un meuble qui fait ce qu'il a à faire, c'est-à-dire juste absolument délicieusement rien. Donc, être libre signifierait, dans Niyotemori, ne plus rien faire ou pire, devenir un objet. Donc, la fin ne signifie-t-elle pas que l'inaction de Maud, plutôt que d'être perçue comme de l'immobilisme, représente finalement un épuisement tellement grand que plus rien n'est possible? Que tout le monde quitte la scène, que tous les personnages puissent s'échapper, ne signifie-t-il pas l'effritement des idéaux collectifs et de la solidarité? La liberté de choix des femmes est-elle envisageable, réellement, en dehors d'une collectivité forte, d'un combat pour obtenir de réels acquis? Donc, ce ne sont ici que les débuts de mes analyses à proprement parler. Mon objectif est à la fois sensible et politique. Bien sûr, je souhaite vraiment une reconnaissance des enjeux féministes abordés par les autrices dans mon corpus, leur mise en lumière et évidemment, l'analyse sociocritique par sa teneur politique, selon moi, me semble être l'avenue propice pour prendre au sérieux les démarches d'écriture de ces autrices. Il me reste peut-être un petit côté idéaliste, à tout le moins optimiste, mais il me semble qu'une dramaturgie critique politique et donc une dramaturgie féministe demeure une avenue intéressante, un lieu même d'où peut éclore une conscience critique. Merci beaucoup.